Alors, nous allons essayer de préciser ce que représente cette opération qu'on a vue, qu'on devait poser à partir du jugement. Alors, j'espère que vous avez vu comment on devait la déterrer. Elle est présente dans le jugement, mais on veut l'analyser pour elle-même. Cette opération que, de fait, saint Thomas appelle « appréhension », ce n'est pas chez Aristote, du reste. Ça pose un petit problème, là, pour ceux qui s'intéressent à voir le point de vue de la connaissance chez Aristote et la connaissance chez saint Thomas. C'est sûrement là un problème qui serait très intéressant, qui peut-être éclairerait beaucoup, de bien voir comment, chez Aristote, dans le De Anima, il y a quelque chose qui pourrait aller tout proche, et que saint Thomas, du reste, interprète à sa manière, comme appréhension et jugement. C'est très curieux. C'est là où on voit le lien entre l'interprétation de saint Thomas, comment, à partir de là, il va donner toute la philosophie critique de l'appréhension, et comment Aristote, lui, dit « le nous a deux manières de connaître ». Une manière de connaître qui implique capacité de vérité et une manière de connaître qui implique quelque chose d'indivisible. Aristote ne précise pas plus. C'est ça qui est intéressant. Et Aristote montre cette dualité de connaissance par rapport au nous pour nous faire comprendre que le nous n'est pas déterminé ad unum. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a dans le nous, qui est quelque chose de naturel, quelque chose qui émerge de la nature. La nature est d'habitude déterminée. Alors, le nous est quelque chose qui n'est plus déterminé. Du moins, il est déterminé, mais il a deux opérations. Et s'il a deux opérations, il peut donc en avoir trois. Et c'est de fait ce qui arrive. Et s'il en a trois, il peut en avoir de multiples. Et c'est ce qui arrive. Ce qui est intéressant, c'est de voir le moment où, justement, il y a division. Et alors, évidemment, ce que dit Aristote dans ce lieu est très intéressant parce qu'il nous montre, je ne sais pas si quelqu'un a la référence, devait avoir la référence exacte du De Anima, chapitre, livre 3, chapitre 4, très bien. Numéro. Vous ne savez pas le numéro exact. Oui, regardez. Non, c'est intéressant pour ceux qui veulent étudier la chose, parce que c'est quand même un lieu très important. C'est un lieu très important de saisir cette bifurcation que donne Aristote au niveau des deux opérations de l'intelligence et la manière dont saint Thomas interprète cette bifurcation. Vous voyez, au point de vue historique, c'est sûrement là où on devrait essayer d'atteindre quelque chose qui, je crois, a une immense répercussion sur tout le reste. Alors, c'est important de saisir ça. Je le fais en dehors. Je fais simplement ça comme un petit nota bene pour vous montrer que ce que nous voyons. Attendez. Livre 3, 6.
Oui, livre 3,
chapitre 4. 4. Il avait raison. 429, je croyais. On peut toujours se tromper. Puisque la. Réalement. Alors, regardez le commentaire de saint Thomas. Ça, c'est facile à trouver. Donc, 429b. C'est vraiment un lieu que je crois qu'il faut tous avoir lu, ceux qui veulent vraiment faire un peu de philosophie. Vous voyez, c'est la division du nous. Les deux manières dont le nous atteint la réalité. Le nous est capable de vérité, le nous, d'une certaine manière, atteint quelque chose d'indivisible. Ça, la chose très curieuse. D'un côté, il y a explicitation du to einam, et de l'autre côté, il n'y a pas l'explicitation. On saisit l'indivisible. Alors, saint Thomas dira tout simplement dans son commentaire, bon, deux opérations d'intelligence, appréhension, jugement. Le jugement se fait par mode de composition, l'appréhension se fait par mode d'indivisible. L'appréhension saisit quelque chose d'indivisible. tandis que le jugement saisit toujours quelque chose de complexe. C'est-à-dire que le jugement se fait par mode de complexité. Et c'est pour ça que le Toeinan est explicité dans le jugement. Oui, le fait d'exister, l'exister, tandis que l'indivisible, non. Alors on comprend très bien comment saint Thomas va de fait, hein. Comprenez bien, saint Thomas a tout un acquis quand il regarde le dianima. Il a été disciple d'Albert le Grand, il y a tout le point de vue d'Avicenne qui est passé entre les deux, et donc il y a la connaissance des essences. Bien voir, alors qu'Aristote ne parle pas de la connaissance des essences, il parle de l'indivisible. Mais c'est intéressant de voir comment saint Thomas, lui, ça fait, c'est le génie de saint Thomas, et quelquefois aussi, ça fait des télescopages ensuite, hein, parce que saint Thomas va très directement. Oui.
Est-ce que l'indivisible en question, ça ne peut pas être la qualité sensible?
C'est justement, ce n'est pas du tout la même chose, vous voyez. Je crois que ce n'est pas la même chose. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment saint Thomas, de fait, l'interprète. L'interprète tout de suite en voyant l'indivisible, c'est la connaissance de la cuidité. C'est la connaissance des essences. Là, on voit très bien le passage avec Avicenne. Vous voyez ? Où une connaissance des essences et de cuidité, et puis le jugement d'existence, l'être, ce qui est composé. Vous voyez, c'est le lieu, je crois, le plus net où on voit le passage de la pensée d'Aristote à la pensée de saint Thomas, au point de vue critique. Nous nous passons ici. Hein. C'est deux aspects très différents. Voyez. Je mets ça, encore une fois, en nota bene, puisque nous n'allons pas traiter ce problème, qui est un problème historique, intéressant pour la compréhension d'Aristote, intéressant pour la compréhension de saint Thomas, mais nous nous plaçons, nous, dans une perspective critique, où le mode d'autorité est la dernière des choses. Il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas parce que saint Thomas dit ça, qu'Aristote dit ça, que je dois, au point de vue critique, m'y arrêter. Il faut toujours comprendre hein, la différence des perspectives. Au point de vue historique, je dois respecter la perspective du dianima d'Aristote. Je dois essayer de comprendre ce qu'il saisit. Et c'est très net qu'il le saisit pour essayer de comprendre la différence qui existe entre la vie du nous et le point de vue de l'imagination. C'est comme ça que saint Thomas se situe. C'est comme ça qu'Aristote se situe. Il faut essayer de montrer dans le De Anima ce qu'il y a de particulier au point de vue de la vie. Nous sommes dans le De Anima, donc au point de vue de la vie. Que représente la vie du nous ? Eh bien, la vie du nous a tout de suite une possibilité de deux orientations. Ce qui n'existe pas dans l'imaginaire, ce qui n'existe pas dans la sensation. Que le nous a la possibilité. C'est pour ça que les néoplatoniciens diront le nous a la possibilité de se replier sur lui-même. Cette réflexion qu'on trouve dans le décausis, c'est le propre de la vie de l'esprit. Alors pour se replier sur lui-même, il faut de la dualité. S'il n'y a pas cette dualité, il ne peut pas se replier sur lui-même. Ça. Quand on est uniquement dans un seul sens, on ne peut pas. On est lancé dans un seul sens. Tandis qu'il y a la possibilité d'une critique. Au fond, c'est la possibilité de la critique. Il y a une auto-lucidité du nous, parce que de fait, il a deux orientations. Alors c'est un lieu très important, parce que par rapport à toute la pensée antérieure, vous voyez, c'est le lien entre le nous et la phusis. La phusis déterminée dans un sens, le nous, double détermination, interne. Et alors le point de vue de la vérité qui apparaît. Saint Thomas, lui, toujours commente Aristote avec un souci de théologien. Je crois qu'il est théologien depuis son baptême, n'est-ce pas ? Alors, il commente toujours Aristote par un souci de théologien et donc de voir comment ça va l'aider à comprendre la connaissance de Dieu, la connaissance des anges, la connaissance de l'homme. C'est toujours le souci de saint Thomas. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, au point de vue métaphysique, voir ce que ça représente, le domaine de l'essence et de l'existence. Parce qu'au fond, saint Thomas fait paralyse toujours entre le point de vue de l'essai et la cuidité. Vous voyez, dans le DNT, ce que nous avions vu. Un lien entre l'essai et... Alors, on retrouve toujours cette espèce de dualité que saint Thomas voit dans le réel et dans la connaissance. Il fait le parallélisme entre les deux. Et ce parallélisme entre les deux est très intéressant, mais il peut aussi prêter à certaines confusions. Vous voyez, il peut prêter à certaines confusions. C'est en ce sens-là qu'on pourra dire que dans le thomisme, dans l'école thomiste, il y aura un certain essentialisme qui s'est dégagé, parce qu'on a isolé l'appréhension du jugement, et alors en réaction, un existentialisme du thomiste qui s'est mis en réaction, on peut dire que c'est Gilson, Maritain Suivi, ils ont pris un existentialisme en prenant l'essai avant la science. N'existant pas avant, en voyant que de fait, saint Thomas insiste beaucoup sur l'essai. Je dis ça, c'est parce qu'au point de vue histoire du thomisme contemporain, c'est très intéressant de voir qu'il y a eu, à partir de ce problème de l'appréhension et du problème du jugement, toute une vision métaphysique différente. Le point de vue de l'essentialisme, l'essence est premier, puis l'existence vient s'ajouter, vous comprenez ? C'est la vision d'Avicenne. L'essence est première, c'est dans l'ordre du nécessaire, et l'existence vient s'ajouter, c'est dans l'ordre du contingent. Alors le jugement touche le contingent, et l'appréhension touche l'essence. Je ne dis pas plus ici. Je vais tout de suite maintenant continuer, mais ayez ça dans l'esprit, si vous voulez, parce que ce serait très intéressant, là aussi, ce serait une très belle thèse, de regarder dans saint Thomas les rapports de l'appréhension et du jugement. Quelqu'un qui aime saint Thomas et qui veut faire une manière d'aborder saint Thomas, ce serait extrêmement intéressant de voir comment, dans toutes les œuvres de saint Thomas, appréhension et jugement se situent et ne se situent pas toujours de la même manière, avec le fondement dans Aristote. C'est un très beau sujet, je ne crois pas que ça a été traité d'une façon exhaustive, et qui serait pourtant intéressante. Parce que ça aiderait à mieux comprendre le rapport essence et existence. Je signale toujours au passage, ceux qui s'intéressent à des mémoires, ça peut être intéressant, qui cherchent des sujets intéressants. Alors là, il y a un sujet intéressant, un hameçon, petit poisson. Si Dieu le laisse, il deviendra grand. Hein? Mais alors, ça peut commencer à voir quelque chose. Hein? Alors, nous avions dit, la dernière fois, à partir du jugement, nous avions dit, je ne peux pas regarder le jugement comme l'opération ultime et dernière. Il y a quelque chose antérieur au jugement, une opération élémentaire. Je pose. Cette opération élémentaire, je l'appelle appréhension, je l'appelle saisie. On a peu importe. Certains mieux qu'on dit saisie aujourd'hui, c'est peut-être mieux que appréhension. Ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que cette opération. Alors je vous avais dit, cette opération regarde les déterminations. Et ceci, je l'avais dit, à partir de l'analyse du jugement d'existence. Hein. Vous voyez, vous rejoignez toujours le jugement d'existence. Hein, c'est une clé. Ceci est, alors qu'est-ce que c'est que le ceci impliqué antérieurement? Et comme le ceci implique toutes les catégories, vous voyez qu'ici apparaît donc, au point de vue critique, les catégories. Il y a des saisies de l'intelligence par rapport aux déterminations premières. Les déterminations premières, les déterminations fondamentales de ce qui est. L'intelligence, dans sa manière de regarder la réalité, touche cette réalité. Et elle saisit à ce moment-là certains aspects de cette réalité. Ces déterminations premières, on les appellera les catégories. Alors, je me pose la question, quel est le caractère de cette première opération, de cette opération élémentaire, de cette opération qu'on appelle appréhension? C'est intéressant parce que c'est donc là où je saisis la première opération du nous. Là, je rejoins le souci d'Aristote. La première opération du nous. Quelle est la première opération du nous? Le nous, c'est un vivant. C'est le vivant. Il ne faut pas l'oublier, le nous. Hein. Ce qu'il y a de plus vivant en moi, c'est mon intelligence. On ne s'en aperçoit pas toujours, mais c'est ce qu'il y a de plus vivant en moi. C'est le vivant. C'est ça qui est source de tout le reste de vitalité. Alors évidemment, si vous arrêtez le nous, au point de vue de la vie, tout le reste s'arrêtera un peu. très astucieux d'endormir le nous, alors on endort les vivants. Enfin, on est vivant dans la mesure justement qu'on se meut. Et l'intelligence elle-même se meut. C'est très intéressant de voir comment le s'émeuverait de l'intelligence. Le s'émeuverait de l'intelligence. Qu'est-ce que ça va ? C'est le premier moment de la vie de l'intelligence que je dois saisir. Quel est la première opération vitale de l'intelligence ? Cette première opération vitale, selon tous les vivants, est une opération d'assimilation. Alors, il faut essayer de comprendre si cette première opération du nous, le nous qui se meut, est-ce que c'est bien une assimilation ? C'est vrai qu'ordinairement, la première opération du vivant, c'est par là que le vivant se distingue des non-vivants. Les non-vivants n'assimilent plus. Et les vivants assimilent. Qu'est-ce que ça veut dire assimiler ? Ça veut dire qu'une réalité qui est au point de départ autre devient après mienne. C'est le passage de ce qui est en dehors à une certaine immanence. Le vivant, c'est celui qui est immanent. Son opération est immanente. Toutes les opérations du vivant sont immanentes. Et donc le propre du vivant, c'est d'être capable de prendre ce qui est son bien, ce qui est son aliment, et de faire que cet aliment devienne lui-même. Il le transforme. Au point de départ, l'aliment est en dehors, et quand il est assimilé, il est le vivant lui-même. Bon, vous trouvez ceci, de fait, dans la vie végétative. L'aliment s'en nourrit, et c'est le propre du vivant de s'en nourrir. Quand le vivant est moins vivant, il a un régime. C'est-à-dire qu'il n'assimile pas tout. Alors, il y a des déterminations. Hein. Alors, l'aliment diminue jusqu'à devenir tout petit. Non, parce qu'au fond, il n'assimile plus. Tandis qu'un grand vivant, il assimile énormément. Il progresse énormément. Il peut assimiler des quantités de choses. Il est beaucoup moins conditionné, vous voyez. Il arrive à faire que l'aliment devienne lui-même. Quand il s'agit de la connaissance, l'intelligence se servant des sensations atteint une réalité. La réalité, c'est l'aliment. Ou plus exactement, de ce que la réalité va me permettre d'assimiler, ce sera justement ça, l'aliment de l'intelligence. Je fais l'analogie entre les deux extrêmes de ma vie. La vie végétative, où je me nourris, la vie intellectuelle, où je vis d'une autre manière, mais aussi je me nourris. J'assimile. Alors, qu'est-ce que l'intelligence est capable d'assimiler de la réalité sensible ? Qu'est-ce qu'elle assimile dans la réalité sensible ? Elle touche les réalités sensibles par le point de vue de la sensation. C'est par les sensations que je touche le monde extérieur, hein, que je l'atteins directement par les sensations. Alors, c'est les qualités sensibles. Mais comment les qualités sensibles apparaissent ici ? Vrai, c'est la première chose que je saisis, c'est les qualités sensibles. C'est les qualités sensibles qui, d'une certaine manière, sont les premières choses que l'intelligence, se servant des sens, atteint. Mais l'intelligence atteint autre chose que les sensations, n'atteignent. Les sensations atteignent les qualités sensibles selon leur manière d'être saisies. Le pascaine, le tout pascaine que souligne Aristote dans la sensation. Je pâtis dans la sensation. Je pâtis en ce sens que je me laisse impressionner par les qualités sensibles. Je me laisse impressionner par ces qualités sensibles qui me déterminent mes sensations. L'intelligence, au-delà des sensations, saisit autre chose. C'est cette autre chose que l'intelligence saisit qu'il faut essayer de comprendre. La première chose qui est l'aliment de l'intelligence. Et l'aliment de l'intelligence, c'est donc de saisir de ses qualités sensibles les déterminations premières de la réalité. Ces déterminations premières de la réalité sont donc les formes de la réalité. C'est donc la quiddité, les déterminations premières. La première chose que l'intelligence saisit, c'est donc, au-delà des sensations, elle saisit les déterminations premières qui me sont données à travers ces qualités sensibles. Mais au-delà de ces qualités sensibles, j'assimile donc dans la réalité les déterminations essentielles de la réalité. Les déterminations essentielles de la réalité, c'est donc la quiddité. Vous voyez, où apparaît le point de vue de la quiddité ? C'est intéressant, génétiquement. C'est la quiddité des choses sensibles que mon intelligence appréhende en premier lieu. Elle appréhende en premier lieu ces déterminations essentielles qui sont les quiddités. Les quiddités, ce n'est pas autre chose que les déterminations essentielles de la réalité. Alors, elle, on comprend très bien que c'est d'abord du côté des qualités. Ce serait très intéressant, du reste, à bien comprendre que c'est d'abord la quiddité des qualités. C'est vrai, ce n'est pas du tout la quiddité de la substance qu'elle saisit en premier lieu. C'est la quiddité des qualités. C'est sûrement la première qu'elle saisit, qu'elle appréhende. Donc, saisit les aspects qualitatifs, puisque la qualité, c'est la manifestation. Une réalité se manifeste à travers les qualités. Et donc, c'est la première chose que l'intelligence saisit. Et que l'intelligence s'assimile. Ah, c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'intelligence s'assimile ses déterminations, ses formes, ses quiddités. Elle se les assimile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez bien comment on essaie de comprendre quelque chose dont nous n'avons pas une expérience immédiate. L'expérience immédiate, c'est la conscience que nous avons, c'est le jugement. Mais nous analysons le jugement et nous voyons que le jugement ne peut pas être premier. Donc il y a nécessairement une autre opération plus fondamentale saisie à travers le jugement. Et que cette opération, c'est le premier moment de la vie intellectuelle. Et le premier moment de cette vie intellectuelle implique d'assimiler des formes, des déterminations. Et les premières déterminations, c'est la qualité. C'est donc de déterminer la quiddité des qualités. Parmi les catégories, il y a la qualité. Il ne faut pas l'oublier. Alors, les catégories ne me donnent pas l'ordre sous lequel je saisis, il y a aussi la quantité. Je saisis ensuite la quantité. Et saisissant la qualité et la quantité, je peux saisir ensuite l'action et la passion, et ainsi de suite. Bon, toutes les catégories sont saisies par mode quiditatif. Ce sont les diverses déterminations de la réalité. L'intelligence est capable de se les assimiler. Alors c'est là où il faut essayer de comprendre ce que représente cette manière dont l'intelligence est capable de se les assimiler. Et c'est vraiment le « se movere », le vivant qui assimile. Si j'essaie de comprendre cette opération d'assimilation de l'intelligence, à la différence de l'assimilation nutritive, parce que l'assimilation du nutritif, d'une certaine manière, est plus facile pour moi à saisir. Hein. C'est pour ça qu'il est bon de la regarder en premier lieu. De comprendre la différence qu'il y a entre connaître, assimiler une réalité, une certaine forme. Ce n'est pas la réalité que j'assimile, c'est les déterminations de la réalité. C'est donc la quiddité de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Quand je connais une réalité, je ne la modifie pas. Quand je mange quelque chose, un aliment, je le modifie. Donc je vois que tout de suite, ces deux opérations d'assimilation sont totalement différentes. L'une implique la destruction de l'aliment, l'autre n'implique aucune destruction. Mais l'intelligence est très polie. Ça fait partie du caractère de l'esprit. Il est poli, il respecte l'autre. Tandis qu'au contraire, la vie végétative ne respecte pas l'eau, elle le mange. C'est extraordinaire de voir ça, mais c'est très intéressant, parce que ça fait comprendre le point de vue de la vie, où vous vous situez. On est vivant de diverses manières. On est vivant en ayant un grand appétit, et en mangeant beaucoup, et en détruisant l'aliment, ou on est vivant en ne détruisant rien. Et comme quand l'intelligence est tout de suite contemplative. Tout de suite. Elle regarde. elle s'assimile. Elle n'est pas du tout agressive, l'intelligence. L'agressivité n'est pas du tout de l'ordre de l'esprit. L'agressivité, c'est les passions. Et c'est la vie végétative. Je veux saisir l'autre, le manger, le détruire, pour vraiment qu'il devienne mien. Tandis qu'au contraire, de l'autre côté, pas du tout, je ne le détruis pas. Je l'assimile sans le détruire. Alors, pour exprimer ce type d'assimilation, on dira une assimilation intentionnelle. Il faut bien comprendre ça. C'est là où, pour bien saisir cette assimilation, je dois voir les différents niveaux où se fait l'assimilation vitale. Il y a l'assimilation vitale au niveau de la vie végétative. Je détruis l'aliment. Il y a l'assimilation vitale au niveau de la sensation, la qualité sensible. D'une certaine manière, je l'assimile aussi. Et puis, il y a l'assimilation vitale au niveau de l'intelligence, au niveau de l'acuité. L'intelligence assimile la forme, l'acuité. Vous avez donc trois assimilations vitales distinctes. Et au point de vue critique, je dois préciser cela. N'est-ce pas, la critique présuppose la philosophie du vivant. Donc je peux aller assez vite là-dessus. La critique présuppose la philosophie du vivant. La philosophie du vivant commence par la vie végétative, puis la vie sensible, et enfin la vie intellectuelle. Tandis qu'en critique, je commence par la vie intellectuelle. Oui, ça, c'est très important de comprendre la différence. Au point de vue de la philosophie du vivant, je dois commencer par la vie végétative. Bien que cette vie végétative soit particulièrement opaque, c'est vrai, c'est pas du tout lumineux quand je mange. Je sais pas très bien ce qui se passe. Et nous en sommes tous là. Et même le biologiste et le savant biologiste ne sait pas très bien ce que ça représente, l'assimilation. On peut étudier les conditions de l'assimilation, mais qu'est-ce que c'est que l'assimilation ? Le vivant qui fait qu'un aliment devient le vivant lui-même. Chose prodigieuse, ça. Si je savais ce que c'était que la vie, je saurais ce que c'est que l'assimilation. Parce que c'est l'opération première. Mais je ne sais pas exactement. Donc, je vois bien que lorsqu'il s'agit de la vie végétative, le vivant de vie végétative est capable d'absorber l'aliment et de transformer l'aliment pour que l'aliment devienne lui. Mais à ce moment-là, destruction de l'aliment. Il devient lui. Il se l'assimile biologiquement. Au niveau sensible, il faut que la réalité sensible soit présente, mais elle n'est pas modifiée. Ce n'est pas parce que je regarde une tulipe qu'elle rougit. Non, elle était avant. Mais dans une personne humaine, c'est différent. Je peux la regarder, alors à ce moment-là, elle devient tulipe. Ça, c'est différent. Elle rougit parce que je la regarde. Mais c'est un procédé différent. Ça. C'est pas le regard. Oui, mais c'était à partir de ces exemples-là, il faut pas l'oublier, que Platon disait que les yeux jettent du feu. Parce que si je regarde quelqu'un, il rougit. Oui, je le fais rougir. Alors, en effet, avec une certaine insistance, je le fais rougir. Donc, il devient tulipe à ce moment-là. Alors, c'est la projection, comme dit Platon, les yeux jettent du feu. C'est très beau, mais je sais très bien que ce n'est pas vrai. Je sais que l'assimilation sensible implique la présence de la réalité sensible sans que cette réalité sensible soit modifiée. Donc il y a assimilation intentionnelle au niveau sensible. Et je retrouve quelque chose de semblable au niveau de l'intelligence. C'est pour ça qu'Aristote dit, et ça c'est une phrase qui me semble très importante à retenir, c'est que l'intelligence dans sa connaissance est d'abord un topaskène. L'intelligence d'abord pâtit. Elle est comme la sensation. En fond, le phénomène fondamental de la connaissance, c'est d'abord la réceptivité. C'est de recevoir. De recevoir et d'assimiler en recevant. Parce qu'on ne peut assimiler que si on reçoit. impossible autrement. Alors le se movere s'accompagne, vous voyez, c'est là qui est très curieuse, s'accompagne de cette réceptivité. Vous avez la réceptivité au niveau sensible, vous avez la réceptivité au niveau de la vie intellectuelle. On va analyser progressivement. Hein. Là, je rappelle simplement une donnée qui me semble très importante à bien comprendre, que la sensation, comme l'intelligence, implique cette réceptivité. Oui, oui, tout à fait. C'est le propre du se movere d'impliquer cette réceptivité. Ça qui est très curieux. Dès que je suis au niveau de la connaissance, vous voyez, le se movere brutal de la vie végétative, c'est du reste là, on prend le se movere en premier lieu. Le vivant se distingue d'abord dans la vie végétative. Et puis alors, il y a quelque chose d'un peu plus complexe dans la vie de connaissance, c'est que ce se movere du vivant va impliquer une réceptivité. Et cette réceptivité va augmenter avec la vie intellectuelle. En passant de la vie sensible à la vie de l'intelligence, la réceptivité est plus grande. Et le se movere sera plus grand. Oui, c'est donc les deux sont impliqués dedans. Alors, il faut comprendre que je retrouve au niveau de l'intelligence le même procédé d'une assimilation intentionnelle. Alors, je crois qu'il faut s'arrêter un instant ici sur le mot intentionnel. C'est important parce que c'est un mot clé. C'est un mot clé sur lequel, du reste, il y aurait des tas aussi d'erreurs qui ont été faites là-dessus et qui sont importantes à voir. L'intentionnalité, d'une certaine manière, a commencé avec la philosophie d'Aristote. Cherchez bien dans Platon, je ne crois pas qu'on voit l'intentionnalité. Je ne crois pas. C'est peut-être le caractère propre de la philosophie aristotélicienne face à Platon. Alors ça, c'est intéressant à voir. Pourquoi l'intentionnalité? Alors le mot intentionnalité chez Aristote n'est pas dit, comme je le dis ici, c'est dit d'une autre manière. C'est le fait que l'âme pâtit. Les pâtés de l'âme. Platon ne dit jamais que l'âme pâtit. Ce ne serait pas assez noble. L'âme ne pâtit pas pour Platon. L'âme est contemplatif par nature, et l'âme a toujours été contemplative. Tandis qu'Aristote introduit, et là il y a quelque chose de très très particulier, Aristote introduit dans le fait de la vie de l'intelligence une capacité de pâtir. L'intelligence pâtit. Et par là, Aristote peut montrer que l'intelligence peut progresser. L'intelligence progresse, l'intelligence se meut, l'intelligence donc à une croissance parce qu'il y a un taux pascal, parce qu'il y a les pâtés de l'âme. S'il n'y avait pas ce pâtir de l'âme, l'âme ne pourrait pas progresser. Donc là, il y a un moment très important qui est donné, c'est de comprendre qu'il y a un devenir du côté de l'esprit, un devenir du côté de l'intelligence. Pour Platon, il n'y a pas de devenir dans la vie de l'intelligence. Nous le verrons avec le cours sur Platon. C'est très important, ça. Je crois que c'est une clé. Vous voyez, les deux grands philosophes du devenir de l'intelligence, c'est Aristote et Hegel. Et là, il y a un point de contact entre Aristote et Hegel. Et c'est intéressant de voir cela. Parce que si je suis aristotélicien, je peux comprendre Hegel. Et du reste, Hegel le dit. Hein. Hegel le dit lui-même. Il dit que c'est Aristote est plus... C'est le philosophe qui forme, tandis que Platon, non. Il y a une opposition entre Platon et Hegel qui est une opposition radicale, tandis qu'il y a une possibilité de comprendre l'hegelianisme par rapport à la philosophie aristotélicienne, parce que des deux côtés, je vois un certain devenir dans la vie de l'intelligence. L'intelligence est capable de progresser. Et Aristote est sensible au progrès de l'intelligence, comme il est sensible à ce que représente l'éducation et l'enseignement. Pour Platon, c'est très difficile de voir l'éducation et l'enseignement. Ce n'est pas commode du tout, puisque l'âme était avant contemplative. Tandis qu'Aristote voit la possibilité de l'enseignement et la possibilité de l'éducation parce qu'il y a d'abord le taux pascal. Le vivant, c'est d'abord celui qui reçoit. Mais ça, c'est le fondement de toute éducation et de toute instruction. C'est la fameuse parole de saint Thomas. Avant de connaître, il faut croire. Il y a d'abord le fait de croire avant de connaître. Et vous voyez le taux pascal. Donc le fait de pâtir. Quand on croit, on pâtit. Dans un cours, vous ne comprenez rien. Vous dites, je crois. Ben, vous pâtissez à ce moment-là. Si vous pâtissez bien, vous recevez une empreinte. Et cette empreinte, alors, vous permettra ensuite de vous mouvoir. De devenir un C mauvais. Évidemment, ça met du temps. Il faut d'abord pâtir. Vous voyez, le taux pascal, ce sont des données que nous pouvons saisir, ça, qui sont quand même très très fondamentales de la connaissance. La connaissance consiste d'abord à recevoir. C'est le propre, vous voyez. Et au fond, ça rejoindrait le point de vue de l'objet. Ça rejoint ça directement. L'intelligence, d'abord, soit accueillante vis-à-vis de l'autre. Si l'intelligence n'est pas accueillante vis-à-vis de l'autre, elle ne reçoit rien. Et en ne recevant rien, elle ne vit pas. Elle devient un manche à balai. C'est-à-dire, elle devient quelque chose qui est une phusis absolument déterminée. Puisque c'est le manche à balai, c'est la phusis, c'est l'être en soi pour ça. Vous savez, le manche à balai. Alors c'est l'être en soi. Alors l'être en soi est complètement déterminé. Tandis qu'au contraire, l'être pour soi, le point de vue de l'intelligence, c'est l'accueil. Et alors, l'accueil se fait au niveau de la sensibilité. Alors, il faut comprendre ce que représente cette assimilation intentionnelle au niveau de la sensation et au niveau de l'intelligence. Et c'est quelque chose de très, très fondamental, l'assimilation, au point de vue du vivant. Je crois que c'est vraiment l'opération vitale première. Je crois qu'on peut le dire aujourd'hui encore. Je demandais à des biologistes si on pouvait encore le dire aujourd'hui, parce que c'est toujours intéressant de voir si la science déloge un tout petit peu. On peut le dire encore, c'est l'assimilation représente l'opération caractéristique du vivant. Alors vous avez les degrés différents de vie, le niveau végétatif, le niveau sensible, le niveau intellectuel. Et vous êtes en présence de la première opération. La première opération du vivant, il assimile. Il assimile, mais il assimile chaque fois à sa manière différente. Il assimile comme dans la vie végétative, alors je laisse de côté ce problème, il assimile à la vie sensible, je laisse de côté, et je regarde l'assimilation de l'intelligence. Je vois que l'assimilation de la sensation et l'assimilation de l'intelligence, toutes les deux sont des assimilations intentionnelles. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis assimilation intentionnelle? Alors, il faut regarder que le mot « intention » a des significations multiples. Quand je dis « intention », vous pensez tout de suite au point de vue moral. J'ai une bonne intention. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une bonne intention? Une bonne intention, c'est-à-dire... Vous savez, aujourd'hui, c'est très curieux. Constamment, on met « intention » et « projet » au même niveau. J'ai un projet de vacances. J'ai un projet de mémoire de licence. J'ai un projet de mon travail de doctorat. Un projet. J'ai une bonne intention. Projet et intention sont de l'ordre de l'intentionnalité. Alors, et c'est vrai, intention, ça veut dire que je tends vers une fin. Je tends vers un bien. C'est ça l'intention. Je suis tout entier tendu vers un bien que j'aime. J'ai l'intention de faire telle action. Le projet, c'est la réalisation, c'est à partir de l'idée. J'ai une idée capable de réaliser une œuvre. J'ai tendu vers l'œuvre à réaliser. Projet, intention, c'est donc un ordre vers. C'est ça l'intention, c'est ça le projet, un ordre vers une réalité qui correspond à quelque chose de parfait comparativement à l'intention. L'intention et le projet, c'est toujours quelque chose d'imparfait. Et si je m'arrête à l'intention, ça ne va pas. Ça me dicte-t-on. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous voyez ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste philosophiquement parlant. Mais on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que je m'arrête à mon intention et je ne vais pas jusqu'au bout. Parce que l'intention reste quelque chose d'imparfait. C'est pas quelque chose de parfait. C'est un ordre vers. Vers le bien. Vers l'opération qui me permet de m'atteindre vers le fin. Ou vers l'œuvre. L'œuvre qui sera quelque chose de réalisé. Le projet est quelque chose d'intérieur. Donc, intention et projet demeurent dans l'immanence de ma volonté ou de mon intelligence. La double immanence de ma vie d'esprit. Ouais, tout ce qui est impliqué dans l'intentionnalité. Je regarde d'abord, hein, avant de préciser exactement ce que c'est que l'intentionnalité. Je vois que, de fait, l'intention morale, le projet artistique, c'est quelque chose qui m'oriente vers. Et c'est quelque chose d'imparfait. C'est quelque chose que je porte en moi et qui demande de se réaliser à l'extérieur pour être parfaitement ce que ça doit être. Il y a une réalisation qui doit se faire. Mais je porte en moi cette intention, je porte en moi ce projet, je porte en moi cette idée. Je peux regarder. Donc, il y a un passage entre les deux. Vous voyez, je devance. Je devance l'union au bien. Je devance l'œuvre à réaliser. Il y a ça dans le projet, dans l'intentionnalité. Je devance. J'ai une possibilité de porter en moi quelque chose qui n'est pas encore réalisé. C'est très curieux. Alors ça, c'est l'esprit par rapport au monde physique. C'est l'esprit par rapport aux réalités sensibles. Je les porte en moi, mais elles ne sont pas encore parfaitement réalisées. Je peux regarder l'intention dans un domaine tout autre. Le domaine de la semence par rapport à la réalisation plénière. Je pourrais dire que dans une semence, il y a un projet. Que dans une semence, dans le gland, par rapport au chêne, il y a un projet. Dans la semence est d'une certaine manière contenu virtuellement tout ce qui sera réalisé ensuite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie peut posséder en elle-même quelque chose qui devance la réalisation. Il y a comme un projet, il y a comme une intention. Je peux dire les deux. Il y a comme une intention dans la nature. En vue de... Il y a un ordre d'une densité extraordinaire. C'est invraisemblable ce que c'est qu'une semence par rapport à la réalisation. Alors, il s'agit d'expliquer, voyez, philosophiquement, ce que représente ce fait que d'un gland va devenir un chêne. Je n'explique pas, je suis devant quelque chose qui est infiniment mystérieux. Alors, je dis que le gland, que la semence porte intentionnellement la réalisation plénière de la chose. Si je vois donc, dans l'ordre de la connaissance intellectuelle, dans l'ordre de la volonté, dans l'ordre de la vie, chaque fois, je vois le mot intention. Et le mot intention est pour montrer la distance qui existe entre la vie et la réalité physique. Pour essayer d'exprimer la distance qui existe entre la vie et la réalité physique, j'emploie le mot intention. Comme quoi la vie peut devancer la réalité physique et possède en elle une capacité d'immanence extraordinaire, de densité, qui fait que ensuite ça va s'expliciter. On continuera de réfléchir sur l'intentionnalité. Au mieux comprendre ce que représente cette assimilation intentionnelle. Je deviens la réalité que je connais.